Chapitre 4. Tu peux faire confiance à un citadin. Tu peux éventuellement faire confiance à un commerçant ou à un démarcheur. Tu peux même faire confiance à un flic ou un fouineur. Mais jamais, jamais ne fais confiance à un maire. Maxime des rues de Nilopa. Cité unifiée de Nilopa. Généralement, on ne retrouvait pas les corps des représentants de l'ordre capturés par les adeptes de la secte de la fin des temps. La dissolution était leur maître mot. Ils s'acharnaient à ne laisser aucune trace de l'humanité sur Terre. Ils refusaient qu'elle puisse renaître de ses cendres, de ses gènes. Ils étaient fous, sans aucun doute. Mais il fallait que l'espèce humaine soit elle-même bien malade pour engendrer des enfants qui ne songeaient qu'à la détruire. Nous ne nous rendions pas compte à quel point l'enfermement dans les cités nous avait déshumanisés. Nous nous étions retirés dans nos bunkers en pensant que nous finirions par oublier les malheureux restés à l'extérieur. Mais l'amnésie est un parasite qui vous grignote lentement de l'intérieur et finit par vous faire tomber en poussière. Les galeries succédaient aux galeries, étroites, fendues en leur milieu par une fosse d'un mètre de largeur. Elles baignaient dans une obscurité imprégnée d'une forte odeur de pourriture. Des cloisons, des paravents, des couvertures, des bouteilles vides et des déchets jonchaient le béton fendillé sur lequel marchait Ganesh, tas en main, tout sens aux aguets, suivant l'itinéraire proposé par sa biopuce. Il y a combien de kilomètres comme ça?
Plusieurs centaines. Anciens égouts de la cité.
Un vrai gruyère. On dirait que des gens ont vécu là-dedans. Utilisé comme refuge pendant le passage des nuages radioactifs, 30 ans avant la fondation de la cité unifiée. Ce labyrinthe ne donne pas sur le monde extérieur. Issue fermée. La sensation de dédoublement s'était estompée quelques instants plus tôt. La mêlée avec Théo s'était interrompue. Ganesh en avait éprouvé à la fois du soulagement, désagréable, cette sensation d'héberger un autre clandestin à l'intérieur de son esprit, et de l'inquiétude.
Biopus du fouineur Théodore Bernier désactivé, hors de portée du réseau.
Comment faire maintenant pour le retrouver dans ce foutoir?
Chercher les traces.
Même s'il a laissé des traces, je n'y vois plus rien.
Autorisation demandée de passer en mode vision infrarouge avant déconnexion du réseau.
Tu veux dire que tu as la possibilité de modifier ma vue?
Procédure d'exception.
Dangereuse?
Risque de perturbation cérébrale et oculaire, estimé à 34%.
Plutôt élevé. Et après?
Retour à la normale.
Je n'ai pas vraiment le choix de toute façon. Autorisation accordée.
Fin de la procédure dans 10 secondes.
Ganesh eut l'impression que des aiguilles chauffées à blanc s'enfonçaient dans ses yeux et dans son cerveau. Il dut s'arrêter de marcher et s'appuyer contre la paroi de la galerie pour accepter et surmonter la douleur. Un gros rat fila entre ses pieds et disparut dans l'obscurité.
Effet secondaire possible. Violente douleur cérébrale.
J'avais cru remarquer, merci. Ah, ça y est. Je vois presque comme en plein jour.
Cherchez les traces.
Ganesh reprit sa marche et parcourut 2 autres galeries avant d'apercevoir un signe sur une paroi. Un T renversé, tracé à la hâte. On dirait que le pied du T nous indique la direction.
Comparaison graphologique. Probabilité écriture Théodore Bernier, plus de 60%.
Allons-y.
Mina la Gémine composa le numéro confidentiel de Caton.
Il lui avait dit de l'appeler lorsqu'elle le jugerait important, mais l'angoisse lui étreignit la gorge lorsqu'elle prononça la succession de chiffres et de lettres. Elle n'était pas sûre de ses jugements, et encore moins de l'humeur de son supérieur.
« Eh bien, mademoiselle ?»«
Pardon de vous déranger, monsieur. Le fouineur Ganesh Parvati est seul dans l'antre de la secte de la fin des temps. Devons-nous intervenir ? » »«
A-t-il fait une demande dans ce sens au central ?»«
Non, monsieur. » »«
N'intervenez pas. Il pourrait deviner qu'il est suivi en permanence, et puis c'est une excellente occasion de tester l'efficacité de la biopuce. »
Nous, les fouineurs, nous ne connaissions pas vraiment l'étendue des pouvoirs de la biopuce en ADN de synthèse. Elle n'était pas qu'un lien permanent avec la base de données de la cité unifiée. Elle avait la possibilité d'intervenir directement, en cas de nécessité, sur les systèmes nerveux et cérébraux de celui ou celle qui la portait. Les techniciens alimentaient sans cesse le central de nouveaux programmes qui se diffusaient automatiquement dans les biopuces. Les programmes se combinaient entre eux pour engendrer de nouvelles potentialités, de plus en plus complexes, de plus en plus vertigineuse. Nous pensions que les biopuces nous rendaient forts, presque invincibles. elles accentuaient sans cesse notre dépendance et réduisaient notre espace.
Fouineur Théodore Bernier, localisé. Salle au bout de cette galerie.
Sûr?
Probabilité 50%.
Si tu captes le réseau, pourquoi est-ce que la biopuce de Théo ne le fait pas?
Présence probable d'un bouclier ou d'un système de brouillage.
Ils sont combien autour de lui?
Résonance magnétique.
3.
Armée, je suppose. Neutralisation avec Taz.
Facile à dire. Il faut que je les touche tous les trois avant qu'ils n'aient eu le temps de riposter.
Tu n'as pas la possibilité de les désactiver, comme le plombeur de l'autre jour?
Impossible. Protection ou brouillage.
Tiens donc. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas pénétrer, vous, les biopuces?
Analyse métabolique des suspects. Niveau de vigilance bas. Exploitation de l'effet de surprise.
Facile à dire quand on est un simple logiciel.
Pas le choix de toute façon.
Ganesh se rapprocha de l'entrée de la salle, d'où jaillissait une langue de lumière crue, qui révélait des déchets de toutes sortes, éparpillés sur le béton, et des rats tachetés en quête de nourriture. Il avança, en regardant où il mettait les pieds.
Marcher sur la queue d'un rongeur ou sur une canette aurait annulé tout effet de surprise.
Il parvint près de la porte, se posta contre le mur, jeta un coup d'œil à l'intérieur de la salle, aperçut deux hommes armés de pistolets dernière génération, régla son TAS sur la puissance maximale.
Ils ne sont vraiment que trois?
Trois individus recensés en plus du fouineur Théodore Bernier.
Leurs échanges à voix basse brisaient de temps à autre le silence profond qui ensevelissait les lieux.
Des rats couinèrent dans la galerie. L'un des hommes s'approcha de la porte et se tint quelques secondes dans l'entrebâillement.
L'index de Ganesh se crispa sur la détente de son tase.
« Ces sales bestioles vont finir par nous piquer notre place sur cette terre, » maugréa l'homme. Il pivota sur lui-même et s'éloigna.
Une dizaine de secondes s'écoulèrent.
Ganesh s'efforça de recouvrer son calme en prenant une profonde inspiration. La biopuce lui indiqua la position des trois hommes juste avant de lui donner le signal.
« Maintenant !»
Il se rua dans la salle, visa le premier homme situé sur sa gauche, pressa la détente. La décharge l'atteignit à la poitrine et le projeta contre le mur. Ganesh tourna aussitôt le canon de son arme sur la silhouette en face de lui. L'effet de surprise passé, le deuxième homme leva son pistolet. Il n'eut pas le temps d'ouvrir le feu. Le rayon du TAS le cueillit à la tête et le décolla du sol.
Ganesh perçut un déclic et se jeta sur le côté juste avant que ne retentisse le coup de feu.
Il ne laissa pas le temps à son dernier adversaire de le coucher en joue.
Il se précipita sur lui, le renversa d'un coup d'épaule et lui expédia une décharge presque à bout portant dans la gorge.
Une série de spasmes secouèrent l'homme, qui firent claquer l'arrière de son crâne et ses coudes sur le béton.
L'odeur de poudre se mêla à celle typique de la saturation électrique.
Chance de survie des suspects, 80% pour l'un, 42% pour l'autre, 21% pour le dernier.
Ganesh se redressa et chercha Théo des yeux.
Personne d'autre dans la pièce.
Théo ?
Une voix éraillée lui répondit, dominant les gémissements et les claquements des os des adeptes de la fin des temps, neutralisés par le TAS. Elle provenait d'un réduit dont il n'avait pas encore remarqué l'entrée, en partie dissimulée par un repli du mur.
« Je suis là !»
Ganesh se précipita dans la petite pièce où il découvrit Théo ficelé sur une chaise et coiffé d'une sorte de casque métallique.
« Qu'est-ce qu'ils t'ont mis sur la tête ?»
Théo l'accueillit d'un pâle sourire.
« Salut Ganesh, content de te revoir aussi. Ce truc sur ma tête, c'est un casque brouilleur. » Fait dans un matériau qui perturbe les impulsions électriques et empêche le réseau de me localiser et d'intervenir sur leur propre puce. Ces dingues en sont tous équipés, même les guignols qui participent à la cérémonie là-haut. Tu peux me le retirer, s'il te plaît? J'étouffe là-dessous.
Ganesh souleva le casque et l'examina. Aucune technologie apparente n'était visible, seulement l'alliage nu et lisse. Théo tenta de lisser du plat de la main ses cheveux ébouriffés et roux.
Merci. Ça fait du bien. Je sais pas ce que ces enfoirés ont fait de mon chapeau. Tu as suivi mes traces, à ce que je vois. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai eu peur que tu les trouves pas. Détache-moi, s'il te plaît. Ces putains de cordes me scient les poignets.
Ganesh entreprit de dénouer les liens. Des cordes faites d'un nylon modifié, dont les fibres se resserraient dès qu'on essayait de les détendre.
Tu étais déjà venu dans ce labyrinthe?
À plusieurs reprises. Bon nombre de délinquants et de plombeurs se planquent là-dedans.
Pourquoi la municipalité ne les fait pas combler?
le traumatisme des nuages radioactifs. On les garde au cas où des petits malins trouveraient le moyen de neutraliser les défenses de la cité et de lui balancer une bombe atomique. Les nœuds se desserrèrent enfin, et Théo se releva pour esquisser quelques gestes et décontracter ses muscles endoloris. Qui pourrait nous balancer une bombe? Les Orsites? Ils n'ont pas la technologie nucléaire. Il y a eu des guerres entre les cités unifiées, elles pourraient reprendre à tout moment. L'organisation des cités a été créée justement pour empêcher tout conflit. Théo cessa de bouger et s'absorba un temps dans ses pensées. Peut-être, finit-il par répondre. Mais des forces sont à l'œuvre qui essaient de foutre le système en l'air.
Quelles forces?
Théo eut un geste évasif. Plus tard, faut d'abord qu'on sorte de là. Tu as eu ces trois-là, mais d'autres tarés vont bientôt revenir en force. Ils parlaient de me dissoudre, tu te rends compte? Me dissoudre, moi, Théo! Ta biopuce a modifié tes perceptions, non? Tu arrives à voir dans cette obscurité?
Ganesh acquiesça. On ne prend pas le temps d'explorer les lieux, on y trouverait peut-être des éléments intéressants.
J'ai ce qu'il faut. Une puce en ADN de synthèse.
Tu l'as trouvée où?
J'ai eu le temps de fouiller un de leurs bureaux avant qu'ils me tombent dessus. Un jeu d'enfant de prélever la puce dans le crypteur. On devrait en apprendre beaucoup plus avec ça.
Ils n'ont pas songé à te fouiller?
Ces types-là sont des fêlés, Ganesh, pas des flics.
Je n'ai jamais aimé les maires. Ces hommes ou femmes qui, une fois arrivés au sommet, étaient prêts à toutes les compromissions pour s'y maintenir. Des magistrats honnêtes et lucides avaient proposé de limiter le pouvoir des maires à un mandat unique de 4 ans. Mais la proposition avait été rejetée à l'unanimité. Les élus voulaient à tout prix conserver leur fauteuil. Les financiers, les chefs d'entreprise et les responsables des forces de l'ordre préféraient traiter avec des interlocuteurs déjà corrompus. La population elle-même se sentait rassurée par les visages qu'elle avait l'habitude de voir. Bref, personne n'avait intérêt à ce qu'une véritable démocratie s'instaure dans les cités unifiées. Les 3 hôtels de ville de Nilopa étaient donc réservés à une poignée d'ambitieux qui écartaient sans ménagement les candidats venus d'autres sphères de la société.
Ganesh ne se lassait pas d'admirer les fonds marins. C'était la première fois qu'il prenait le tube sous-marin entre Londres et New York. Et il n'aurait jamais pensé que l'océan pût abriter une vie aussi intense, toutes ces plantes, tous ces poissons aux formes et aux couleurs étonnantes. 2 jours s'étaient écoulés depuis leur séjour dans l'ancien réseau des égouts. 2 jours pendant lesquels la hiérarchie leur avait foutu une paix royale en récompense de la neutralisation de l'organisation de la fin des temps. Puis, un adjoint les avait appelés pour leur proposer, ordonner, en langage administratif, d'accompagner le maire de Paris à New York. Son haleine et son allure, lorsqu'il s'était présenté à l'échangeur océanique de Tamise Centrale, indiquaient que Théo avait abusé du vieux rhum pendant sa courte période de repos. 20 de personnes composaient la délégation parisienne. Le maire Alaric Brognier, 3 adjoints principaux, 3 conseillers en droit des cités, 2 secrétaires, 10 de gardes du corps appartenant au bataillon d'élite de la police parisienne et les 2 fouineurs. Une délégation réduite de temps de crise. Théo s'avança à côté de Ganesh et désigna les bancs de poissons qui se livraient à de fascinants ballets synchronisés, de l'autre côté de la paroi transparente du tube sous-marin.
Ils viennent de temps à autre voir passer les hommes. C'est nous qui sommes dans le bocal. Enfin, tu n'as peut-être pas connu le temps des aquariums.
Ganesh éluda le sujet d'un geste évasif.
Pourquoi le maire nous a-t-il choisi pour l'accompagner à New York?
Une 2e récompense, je suppose. C'est grâce à nous que ces dingues de la secte de la fin des temps ont été mis hors d'état de nuire.
Il baissa le son de sa voix. Et puis j'ai entendu dire qu'il était en rogne contre Caton, notre patron.
J'aurais préféré qu'il nous accorde un jour de repos supplémentaire. Je suis toujours aussi naze.
Le contre-coup, je suppose, les modifications biologiques opérées par la biopuce. Te fais pas d'illusions, Ganesh. Les élus n'ont jamais respecté les jours de repos compensatoires accordés par la convention collective aux fouineurs. À propos, je te remercie à nouveau pour ton intervention de l'autre jour.
Ganesh suivit du regard les évolutions facétieuses d'un mammifère marin, un dauphin sans doute.
On faisait équipe, non?
Vrai, mais j'en connais quelques-uns qui m'auraient laissé tomber comme une vieille chaussette. Tu as pris des risques en autorisant ta biopuce à modifier ta vision. J'en connais aussi d'autres qui sont restés à moitié aveugles ou à moitié fous.
On ne triture pas les cerveaux comme on répare les os ou les séquences génétiques.
Moi, par exemple, j'ai subi 2 grèves de...
Messieurs? L'un des adjoints s'approcha d'eux. Un jeune homme blond, aux traits presque féminins, vêtu de l'un de ses costumes aux rayures fluo, qui faisait fureur dans les soirées mondaines.
Le maire de Paris désire vous parler.
On vous rejoint tout de suite,
répondit Théo. Il attendit que l'adjoint soit passé dans l'autre compartiment pour ajouter
« Je t'ai pas encore dit, Ganesh. La micropuce en ADN de synthèse que j'ai trouvée dans le pavillon de la secte est un modèle très récent, fabriqué à New York. J'ai réussi à craquer une partie du brouillage. La fin des temps préparait une attaque biologique et recrutait une armée de plombeurs. Les trucs habituels qui laissent des traces. Rien de comparable avec les ombres.
Pourquoi tu ne me racontes ça que maintenant ?
Je t'ai déjà dit que je ne faisais confiance à personne. Et s'il m'arrive quelque chose, il faut que quelqu'un puisse continuer ce que j'ai commencé.
Elle est où, cette puce ? Théo tira de sa poche un minuscule objet blanc qu'il posa avec délicatesse dans le creux de sa paume.
La voici. À peine 3 mm. Une capacité de stockage énorme. Une petite merveille technologique. Il te suffira de
la glisser dans un identifieur, je sais, je suis plus calé que toi en technique, Théo.
Respecte les anciens, Ganesh.
Tu es encore trop jeune pour être respecté, Théo.
Je tenais personnellement à vous féliciter, messieurs. Les yeux incisifs du maire se posèrent tour à tour sur Théo et Ganesh. Il n'y avait personne d'autre qu'eux dans la petite pièce située à l'extrémité du compartiment. Il les avait priés de s'asseoir sur les fauteuils scellés au plancher et placés en face d'un bureau entièrement blanc. Ganesh reconnut le museau presque collé sur la paroi transparente du dauphin qu'il avait observé quelques instants plus tôt.
« Nous n'avons fait que notre boulot, monsieur le maire », déclara Théo en triturant le chapeau qu'il avait ôté en entrant dans la pièce. « Et nous n'avons toujours pas arrêté les ombres. »
Alaric Brognier joignit les mains devant ses lèvres. Ganesh estima qu'il avait reçu plusieurs implants génétiques et qu'il était probablement plus vieux que ne le laissait supposer son visage lisse et son allure juvénile.
« Analyse morphopsyché. Cette opération recensée. »«
Vous avez mis fin aux activités de dangereux extrémistes, » reprit le maire. « Un excellent résultat, déjà. »
Le grand prêtre de la fin des temps comptait introduire dans la cité un virus biologique qui, selon nos spécialistes, tue en moins de 24 heures. Ce n'était qu'une question de mois, de semaines peut-être. Les ombres nous ont au moins permis de déjouer ces projets.
Je ne comprends pas très bien cette rage à exterminer ses semblables, dit Théo. Il n'y a que chez l'homme qu'on voit ça.
Le maire eut un sourire qui dévoila sa nature carnassière, sous ses dehors polissés.
Vous feriez de la politique, vous seriez beaucoup moins étonné.
On a pourtant intérêt à se serrer les coudes dans les cités. On n'a pas beaucoup d'espace, pas énormément de ressources.
Nous ne nous sommes pas trop mal débrouillés jusqu'à présent. Nous avons réussi à maintenir la population aux alentours de 110 millions, le seuil acceptable pour, selon vos propres mots, notre espace et nos ressources.
Nous sommes protégés, mais comme tout système clos, nous restons vulnérables. Imaginez que les Horsides parviennent à contrôler les serres extérieures. Nous serions totalement privés de nourriture.
Alaric Brognier se leva et se plaça devant la baie transparente, face au dauphin qui nageait à la vitesse du tube.
Vous êtes un indécrottable optimiste, vous, reprit-il. Les serres alimentaires sont aussi bien protégées, voire mieux, que les cités. Les ombres m'inquiètent davantage que les Horsites. Et vous, quelle est votre opinion sur les ombres ?
Théodore consulta Ganesh du regard. Avant de répondre,
elle est la même que celle de chacun de mes confrères, je suppose. Nul.
Le maire se retourna et fixa Ganesh.
Et vous, jeune homme ?
Pas mieux, monsieur.
Alaric Brognier évacua son agacement d'un soupir bruyant.
Lorsque vous rencontrerez vos confrères à New York, tâchez de savoir où ils en sont.
Je suppose qu'ils n'en savent pas davantage que nous,
avança Théo.
Je soupçonne nos amis new-yorkais de nous cacher parfois leurs informations.
Dans quel but ?
Alaric Brognier revint s'asseoir à son bureau. Ganesh ne savait pas ce qui le dérangeait le plus en lui. Son regard inquisiteur, ses manières raffinées, presque précieuses, ou encore la douceur trompeuse de sa voix. Depuis la fondation de la cité, les Londoniens et les New-Yorkais sautent sur toutes les occasions d'afficher leur supériorité sur les Parisiens. Il ne s'agit pas d'être en retard sur ce coup-là.
L'essentiel, monsieur, est d'arrêter ces foutus tueurs, non ?
Le dauphin disparut de leur champ de vision. Un besoin urgent de prendre l'air, sans doute.
Vous avez raison, mais il y a d'autres enjeux que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici. Je peux simplement vous dire que nous devons à tout prix conserver l'équilibre de Nilopa.
Le pire sort qui puisse frapper un hors-site n'est pas l'esclavage, mais la mutation. Une esclave a toujours une chance de tomber sur un maître compatissant, et toujours une chance de s'évader. Tandis qu'un mutant n'a plus aucune chance de mener une existence humaine. Proverbe hors site. Pays hors site. Les mutations qui ont touché les populations hors site n'ont pas engendré que des déformations physiques, mais aussi et surtout de brusques évolutions psychiques. Bien que n'étant pas savante, j'ai suffisamment observé les gens autour de moi pour affirmer que les déchéances physiques, la perte d'un sens par exemple, ou l'immobilité partielle, ou encore l'extrême fragilité de la peau, étaient compensées par un développement spectaculaire des facultés cérébrales, comme la capacité de prédire l'avenir, la possibilité de deviner les intentions de son adversaire, ou encore le pressentiment du danger. Souvent utilisés comme vigie des clans, les mutants devenaient les cibles prioritaires des attaques. On essayait de les tuer ou de les enlever pour affaiblir un clan ou renforcer un autre. Dans un cas comme l'autre, leur vie était brève. Je dois reconnaître ici que les mutants m'ont toujours mise mal à l'aise, que je les ai toujours regardés comme des monstres. Ainsi sommes-nous, les hors-sites, bannis des cités unifiées à cause de nos différences et maudits par notre incapacité à accepter les différences.
Vous ne me voyez pas, mais moi je vous vois.
La voix était étrange, traînante, haut perchée, vibrante, comme déformée par un brouilleur à hydrogène. Dans ces ténèbres ? Demanda Delune. Naya garda son pistolet pointé sur l'obscurité de la galerie. Cran de sûreté déverrouillé, index recroquevillé sur la détente. Elle avait beau écarquiller les yeux, elle ne discernait aucune forme dans les ténèbres.
« T'es qui, putain ? » glapit-elle. « Vite ou je tire !»
L'autre marqua un temps de silence avant de répondre d'une voix hésitante.
« Je sais que tu ne vas pas me faire de mal. »«
Ah ouais ? Comment tu peux en être aussi sûr ?»«
Les heures me l'ont dit !»«
Les heures ? Tu te fous de ma gueule ?»
Une respiration bruyante résonna quelques instants, semblable à un grincement de fer rouillé.
« Les heures me disent à l'avance ce qui va se passer !»
Naya lança un coup d'œil à Delune avant de lâcher, entre ses lèvres serrées.
« Je vois, t'es encore un de ces cinglés complètement ravagés par les vents nucléaires. »«
Les heures me disent que vous venez d'une agglomération du Sud, où a éclaté une guerre de clans, et que vous allez bientôt vous mettre en chemin sur les rives du fleuve et vous diriger vers une autre agglomération. Les heures me disent aussi que vous flottez sur l'eau. »
Delune empêcha Naya de parler d'une pression de la main sur son avant-bras. « Les heures te parlent aussi bien du passé que du futur ?» demanda-t-il.
« Les autres croient qu'il coule toujours dans le même sens, mais je sais, moi, qu'il va dans toutes les directions. »
Naya repoussa avec nervosité la main de Delune.
« Qu'est-ce que tu fous dans ce trou du cul du diable ?»
Des bruits de pas retentirent, accompagnés de la respiration bruyante.
« Bouge pas ou je tire !»
cria Naya. Elle distinguait à présent une ombre claire dans la pénombre. Une silhouette plutôt menue au premier regard.
« C'est ma maison ici !»
La voix était maintenant presque geignarde.
« J'ai toujours vécu là !»
« Seul ?» demanda Delune.
« On était beaucoup avant... »«
Avant quoi ?»«
L'attaque. Ils les ont tous massacrés. »«
Qui ça, ils ?»
La voix ne répondit pas tout de suite. Naya perçut des halètements sonores évoquant des sanglots étouffés.
« Je ne sais pas. Des hommes. Mais ils ne sentaient pas comme des hommes. Ils n'avaient pas d'odeur. »
Delune s'avança d'un pas et se tint devant le canon du pistolet de Naya. « Comment tu leur as échappé ?»«
Les heures me l'ont dit. J'ai essayé de prévenir les autres, ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ne me croyaient pas. Ils disaient que j'étais fou. Alors moi, je me suis caché. Les tueurs ne m'ont pas trouvé. »
Naya se porta à hauteur de Delune, baissa son arme et fixa la silhouette.
« Tu as laissé les tiens se faire massacrer ?»
Les miens ?
Bah oui, quoi, tes parents, tes frères, tes sœurs.
Je sais pas ce que c'est.
Naya lança un coup d'œil incrédule à Delune.
Attends, tu veux dire que tu n'avais pas de père, pas de mère ?
Je sais pas.
Eh ben, les heures ne te racontent pas tout, on dirait.
En tout cas, tes tueurs, ils ressemblent foutrement aux cavaliers de l'Apocalypse. »
Delune fit encore deux pas en direction de la silhouette. « Les tueurs sont partis ?» La douceur contenue dans la voix du jeune guérisseur avait sur Naya l'effet d'un baume apaisant.
« Je suis resté longtemps dans ma cachette, puis je vous ai entendu. Et les heures m'ont dit que je pouvais aller à votre rencontre. »
« C'est loin, là où tu vis ?»«
Loin ?»«
Il faut longtemps pour y aller ?» La silhouette s'agita. Naya releva son bras armé. D'un geste, Delune la pria de le rabaisser.
« Non, pas longtemps, pas longtemps !»«
Tu peux nous y conduire ?»«
Je veux bien. »
Naya marqua sa réprobation d'une moue prolongée.
« T'es complètement dingue, Delune. Ça doit puer la mort là-bas. »«
Il y a peut-être des trucs intéressants à récupérer. » argumenta Delune. « Des couvertures, par exemple. De la bouffe, des balles. Tu n'as pas dit que tu risquais bientôt d'en manquer ? Je suis d'avis d'aller y jeter un œil. »
« Et si l'un des tueurs est resté sur place ?»
Delune décocha un regard ironique à Naya.
« Alors, c'est toujours moi le trouillard ?»
Elle se contint pour ne pas le frapper.
« T'es vraiment débile, Delune ! Je me suis déjà retrouvé devant un cavalier de l'Apocalypse et je peux te dire que je n'ai aucune envie d'en croiser un autre !»
« Fais ce que tu veux, moi j'y vais. » Delune se tourna vers la silhouette. « Tu peux me conduire chez toi ? Au fait, comment tu t'appelles ?»«
Yosp !»
Petit, frêle, souffreteux, entièrement nu, toujours penché en avant, Yosp avait des yeux énormes et ronds, et de drôles de cheveux épars et filasses sur le crâne. Les os saillaient sous sa peau blême, criblée de taches bleuâtres. Ayant vécu toute son enfance dans l'obscurité des grottes, il ne voyait pas à plus de 3 pas devant lui. Il marchait d'une allure traînante, chancelante, et fatiguait vite. Si sa vue n'était pas très performante, il en allait tout autrement de son odorat et de son ouïe, nettement plus développé que la moyenne. Et, surtout, il jouissait d'une incroyable faculté à prédire l'avenir immédiat. Il percevait les images et les sensations quelques minutes ou quelques secondes avant que les événements ne se produisent. Comme projeté dans le temps. Curieusement, il était toujours absent de ses prédictions, comme si elles ne le concernaient pas. Il ne savait jamais s'il survivrait au danger qu'il pressentait. Il évoquait dans l'esprit de Naya ses hommes, ses femmes, ses enfants, retrouvés dans les grottes, hagards et réduits à l'esclavage par des clans peu scrupuleux. D'une maigreur désolante, ils ressemblaient à des hiboux déplumés. La plupart du temps, il mourait après quelques semaines de captivité.
Putain, c'est une infection ! À ton avis, ça fait combien de temps qu'ils sont morts ?
Elle désignait les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants criblés d'impact, en train de pourrir au milieu d'ustensiles et de débris de toutes sortes. Ils avaient d'abord exploré plusieurs salles, qui communiquaient entre elles, éclairées par des rayons de lumière obliques tombant des voûtes. 5 ou 6 jours à en croire leur état, répondit Delune. Peut-être plus. Ils pourrissent moins vite dans ces grottes que dehors. Yosp se tenait dans un coin, prostré, exténué par la marche, la tête pratiquement enfouie dans les jambes.
Il y en a au moins 200.
Au bord de la nausée, Naya chercha un courant d'air pour reprendre sa respiration et oublier quelques instants la puanteur.
Ils sont tous à poil! Tu crois que les tueurs leur ont piqué leurs vêtements?
Je ne crois pas. Delune pointa l'index sur Yosp. Il ne porte rien, lui non plus. Elle observa le petit homme sans parvenir à masquer le dégoût qui s'était emparé d'elle lorsqu'il s'était présenté devant eux. Des mutations provoquées par les radiations, celle de Yosp était sans doute l'une des plus terribles. On aurait dit un gnome gris échappé des légendes du noyau.
Il ne dit plus rien depuis qu'on a mis les pieds dans leur bled.
C'est la première fois qu'il voit leur cadavre, je pense. Il est en état de choc.
D'où elle vient, cette lumière ?
Du jour. Elle doit se glisser par des ouvertures naturelles et filtrer jusqu'ici. Naya sentit enfin une caresse fraîche sur son visage et s'immobilisa sous la bouche d'où soufflait le courant d'air.
« Ils vivaient comme des rats dans ce trou, » marmonna-t-elle. « Y a rien à récupérer, en tout cas. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien bouffer ?»
Delune se rendit dans un recoin sombre de la salle principale et donna un coup de pied dans un monticule recouvert de plusieurs couvertures trouées. Des crânes et des os se répandirent sur le sol dans un roulement prolongé de crissements et de craquements. Si j'en juge par ça, ils se mangeaient entre eux.
T'es ouf ! Protesta Naya. C'est leur cimetière, pas leur garde-manger.
On ne découpe pas les corps en morceaux quand on les enterre.
Putain, c'est dégueu ! Ils étaient pires que des animaux !
Accroupi pour examiner les ossements, Delune releva la tête et fixa tour à tour Naya et Yosp.
Ne les juge pas trop vite.
Je ne vois pas ce qu'ils auraient pu manger d'autre. Ils ne pouvaient pas cultiver de céréales ni de légumes, pas élever non plus d'animaux. Ils étaient condamnés à se manger entre eux. Naya serra les dents et les poings pour contenir une envie de vomir de plus en plus pressante.
Ils auraient pu chasser à l'extérieur.
Delune se releva et s'approcha d'elle. Son teint blême indiquait que le spectacle de ses corps pourrissants et de ses squelettes l'avait secoué. Ils l'ont certainement fait dans les débuts, et puis ils se sont habitués à vivre dans l'obscurité. Ils se sont sentis en sécurité dans le ventre de la terre. Ils se sont adaptés et ont réglé à leur manière le problème de la survie.
Comment tu peux en être sûr? Les heures te parlent à toi aussi?
Delune éclata d'un rire qui s'étrangla et se perdit dans les aigus.
Une simple déduction logique. Moi, j'essaie seulement d'apprendre le langage des plantes.
Bon, si on se tirait. Je sais pas pour toi, mais moi, j'en ai ma claque de respirer cette infection.
C'est seulement l'odeur de la mort, Naya. Il faut s'y habituer, on finira tous comme ça.
Naya se dirigea d'un pas résolu vers la sortie de la salle. Ouais, ben je suis pas pressé, on fout le camp.
Delune resta immobile au milieu de la grotte.
Et Yosp, on en fait quoi?
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un taré cannibale?
Maugréa Naya sans se retourner.
Si on le laisse là, on le condamne à mort. Dehors non plus, il n'a pas la moindre chance de s'en sortir. Me dis pas que tu as l'intention de l'emmener avec nous, t'es vraiment dingue. C'est comme si on s'attachait une pierre au pied.
Yosp ne bougeait pas, tête baissée, semblant ne pas prendre garde à leur conversation. Je n'aurais pas la conscience tranquille si je le laissais là.
Fous-nous la paix avec ta conscience, Delune. Si on ramasse chaque paumée qu'on croise sur notre chemin, on n'a pas...
Yosp se redressa tout à coup et déclara d'une voix forte
« Deux hommes! Ils vont arriver !»
Naya s'arrêta sur le seuil de l'ouverture principale et, cette fois, se retourna. « Tiens, il a retrouvé sa langue. »«
Ils vont arriver !»
répéta Yosp. Il parlait avec une clarté inhabituelle, comme s'il s'exprimait avec la voix de quelqu'un d'autre.
« Il faut partir !»«
Les heures ne te disent pas s'ils vont nous tuer ?» ironisa Naya. « Ça nous éviterait au moins de cavaler. »«
Il faut partir !»
Delune se rendit près du petit homme et l'aida à se relever. Si les autres l'avaient écouté, il serait peut-être encore en vie.
Je crois qu'on devrait y aller.
Ah, t'es pressé maintenant, persifla Naya.
Delune se dirigea vers la sortie en tirant Yosp par la main.
C'est pas le moment, Naya, on file.
Ils sortirent rapidement des grottes et parcoururent l'enfilade de galeries aussi rapidement que le leur permettait l'allure de Yosp. Ils entendirent d'autres bruits de pas que les leurs, lourds, saccadés, et des craquements sinistres, sans doute des os craquant sous des bottes. Le courant violent charriait des troncs et des branches. Le tumulte de l'eau couvrait les frissonnements des arbres sous la brise et les crépitements de bois mort sous leurs pieds. Ils longeaient la rive depuis un bon moment. Le fleuve était en cet endroit trop large et profond pour être traversé. Le seul pont de bois qu'ils avaient dépassé avait été emporté par le courant. Il n'en restait que les piles de pierres. Naya désigna Yosp d'un coup de menton.
« Il nous retarde! On est obligé de s'arrêter toutes les 5 minutes à cause de lui! Il voit que dalle et tremble tellement que j'ai l'impression qu'il va tomber en miettes !»«
Faut lui trouver des vêtements !» rétorqua calmement Delune.
« Et où veux-tu dénicher des fringues dans le coin ?» vitupéra-t-elle. « Si ça se trouve, il n'y avait pas de tueur dans la grotte. Ce taré nous a raconté des conneries pour nous obliger à le prendre avec nous !»«
Il nous a peut-être aussi sauvé la vie, Naya. Si seulement on pouvait utiliser le courant du... » Delune s'immobilisa et pointa le bras sur les roseaux presque couchés par le vent.
« Là, une barque ?»
Ils se frayèrent un passage au travers des arbustes, des buissons et des roseaux. Une horde de nuages noirs et menaçants roulait dans le ciel, pourchassés par un vent irascible. Delune s'avança dans l'eau boueuse jusqu'aux genoux pour examiner la barque.
« Elle semble en bon état. Attends, tu veux tout de même pas dire que tu comptes me faire grimper là-dedans ?»
s'assurgea Naya.
J'ai horreur de la flotte, moi. Tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude si tu crois que je...
Yosp s'agita. Son corps blanc et nu creva la grisaille du jour.
Deux hommes,
dansa-t-il.
Ils vont arriver.
Encore, soupira Naya.
Ils sont vides, silencieux, poursuivit le petit homme. J'entends pas leurs pensées, ils n'ont pas d'odeur, pas d'odeur!
De Lune se releva et fouilla les environs du regard. Dans combien de temps, tu crois?
Je ne sais pas. Bientôt!
De Lune plongea la main dans l'eau et la ressortit 2 secondes plus tard en tirant une chaîne rouillée et ruisselante.
Elle est attachée. Son propriétaire ne doit pas être bien loin.
Je serai toi, De Lune, j'oublierai cette idée,
grogna Naya.
Cette barque peut nous faire gagner un temps fou. Aide-moi donc au lieu de caqueter comme une vieille poule.
Naya resta plantée dans l'herbe haute et humide de la berge.
Putain, je te dis que j'ai une trouille bleue de la flotte!
Dandera dit qu'il faut regarder ses peurs en face si on veut s'en débarrasser.
Dandera, moi, je le... Les deux hommes! Coupa Yosp. Ils arrivent!
De Lune parvint à détacher la chaîne de la branche submergée à laquelle elle était attachée et saisit le rebord de la barque pour la maintenir dans le courant.
On embarque, vite!
Yosp se dirigea de son allure très sautante vers l'eau.
Sa peur provoquait un claquement violent et incoercible de ses dents.
Une voix grave tomba des hauteurs.
« Lâchez cette barque !»
Naya repéra une silhouette sur un gros rocher surplombant la rive du fleuve. Un homme barbu, coiffé d'un bonnet, vêtu d'un long manteau et armé d'un antique fusil de chasse.
« Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée !» siffla-t-elle. « Il nous tient en joue. Il doit y en avoir un deuxième dans le coin si Yosp a raison. »
De Lune aperçut à son tour l'homme perché sur le rocher entre les branches et les panaches des roseaux.
« Excusez-nous !»
lança-t-il d'une voix forte.
« Nous ne savions pas que cette barque appartenait à quelqu'un !»«
Te fous pas de ma gueule, petit con !» rétorqua l'homme. « Vous êtes de quel clan ?»«
Moi, je suis du Haut-Lieu, le clan des guérisseurs. Elle, du Pégase, et lui, de l'Ours. »«
C'est pas des clans de par chez nous, ça !» Moi qui croyais rentrer bredouille de la chasse, me voilà avec une sacrée bonne prise. Vous deux, vous pouvez me rapporter assez de fric pour que je passe un hiver tranquille. L'autre là, l'homme de caverne, je vais pas m'en encombrer. Il est tellement rachitique que je pourrais pas en tirer grand-chose.
Naya se positionna légèrement de profil pour glisser la main sous sa chemise et saisir la crosse de son pistolet.
Votre copain, il est où? Cria-t-elle.
Quel copain?
L'homme ricana.
« Je travaille toujours seul, pas envie de partager. »
Elle croisa le regard affolé de Yosp, enfoncé dans l'eau jusqu'aux cuisses près de l'arrière de la barque. La peur creusait son visage, accentuant sa disgrâce.
« T'avais pas parlé de deux hommes ?»« Deux hommes ! Ils arrivent !»
Le volume de la voix du petit homme augmentait à chaque syllabe, de plus en plus aiguë, de plus en plus perçante.
« Ils arrivent ! Ils n'ont pas d'odeur ! Dites-lui donc de fermer sa gueule !»
rugit l'homme debout sur le rocher.
« Ou je l'abats comme un putain de rat! Il m'a l'air complètement... »
Une détonation éclata. L'homme eut un soubresaut, bascula en arrière. Son corps tomba de l'autre côté du rocher dans un fracas de branches brisées.
« Putain, c'est quoi ce bordel ?»
souffla Naya. D'autres détonations retentirent. Des balles sifflèrent et crépitèrent autour d'eux.
« Sautez dans la barque !»
glapit de Lune.
« Vite, vite, vite !»
Naya se précipita dans l'eau et saisit au passage le poignet de Yosp.
« Bouge-toi !»
Elle l'aida à grimper dans la barque, le renversa sans ménagement, et enjamba à son tour le rebord plat. De Lune lâcha la chaîne et poussa la barque jusqu'à ce qu'elle prenne de l'élan. Des balles miaulèrent sur les rochers environnants, frappèrent la surface de l'eau, déchiquetèrent les feuilles derrière eux. Naya se rétablit sur ses genoux et tendit la main en direction de Lune.
« Saute, De Lune !»« Attends !»
haleta-t-il.
« Faut qu'elle soit bien engagée dans le courant !» Saute, je te dis! Je les vois, 2 mecs! Putain, des cavaliers de l'apocalypse! Déconne pas, De Lune, saute!
De Lune poussa encore la barque sur 5 ou 6 mètres. Puis, quand elle eut pris suffisamment de vitesse, il se hissa à la force des bras sur la plage arrière et se laissa tomber de tout son long dans l'embarcation. Une nouvelle salve de balles crépita au-dessus d'eux. Quelques-unes se fichèrent dans le bois, heureusement assez dense pour les arrêter. Naya se redressa et osa un regard en direction de la rive qui s'éloignait rapidement. Elle entrevit les 2 cavaliers immobiles, sous les arbres, et en partie dissimulés par les branches.
« Putain !»
dit-elle en se rallongeant dans le fond de la barque.
« Yosp, je te jure qu'à partir de maintenant, je croirai tout ce que tu nous diras. »